française en Corée.
Nous sommes avec Belle de Belle au monde. C'est Eva Jaune. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Ça va.
Il n'a pas rougi avec mon compte paiement.
Je sais pas, à toi de me dire.
Mais oui, tu te proches.
Ouais. Depuis 1992, tous les mercredis à midi, de vieilles dames coréennes manifestent devant l'ambassade du Japon à Séoul. Elles ont été ce qu'on appelle les femmes de réconfort. Donc c'est un terme à utiliser, attention, avec des guillemets, car c'est la formule qui a été employée à l'époque, mais on sait que c'est un énorme euphémisme, puisque ces femmes ont en fait été les esclaves sexuelles des soldats japonais entre les années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce son qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du documentaire The Murmuring de Pyeong Young-ju, donc qui traite de ce sujet. Et donc dans l'extrait, on entend les femmes manifester et scander un slogan qui veut dire oumi.
Punissez les responsables. Punissez les responsables.
Donc en effet, depuis 1992, ces femmes demandent des excuses officielles et une indemnisation publique au gouvernement japonais. Et pour l'instant, celui-ci a certes présenté des excuses, mais elles étaient très vagues. Et surtout, il refuse de reconnaître sa responsabilité légale dans cette histoire. Alors si j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai visité le week-end dernier ce qu'on appelle The House of Sharing, donc la maison du partage, qui se situe à Gwangju, donc tout près de Séoul, dans la province du Gyeonggi.
Oui, c'est à ne pas confondre avec l'autre ville qui s'appelle aussi Gwangju, mais qui se situe, elle, au sud-ouest du pays.
Voilà, qui est plus célèbre et qui s'écrit exactement pareil. Alors, cette maison est dédiée donc à ces femmes de réconfort. Et elles sont à l'heure actuelle 9 à y habiter. La plus jeune a 83 ans. Et alors cet établissement a ouvert en 1992 grâce aux donations privées et ainsi qu'au soutien d'une organisation bouddhique. Et c'est aussi un musée. Et donc des visites sont régulièrement organisées, y compris pour les scolaires sud-coréens et puis pour les anglophones. Et donc ces visites sont l'occasion d'en apprendre plus sur le sujet et puis de rendre visite aux 9 halmoni. Comment on les appelle ?
Grand-mère.
Voilà, grand-mère en coréen. Donc c'est une partie de l'histoire du XXe siècle qui reste quand même largement méconnue, hein, ici comme en Europe. Voilà, donc on estime que ces femmes ont été 200 000 à avoir servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais avant et après et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est le chiffre estimé par l'ONU. Mais c'est vrai qu'il est impossible d'avoir des statistiques très exactes à ce sujet. En revanche, on sait qu'au moins 80% de ces femmes étaient coréennes. Et donc le reste venait des autres pays d'Asie.
Mais il semblerait même que quelques-unes étaient des occidentales qui avaient été donc enlevées pendant la guerre, etc. Donc il n'y avait pas que des asiatiques aussi.
Tout à fait. Il y avait notamment des hollandaises, des néerlandaises qui habitaient en Asie, hein, parce que voilà, c'était une puissance coloniale. Et donc elles ont effectivement fait partie de ces femmes de réconfort. Environ un tiers de ces femmes ont survécu après la guerre, ce qui fait donc à peu près 48 000 femmes. Mais il a fallu attendre 1991, c'est-à-dire 46 ans quand même, avant qu'une femme ne s'exprime publiquement à ce sujet. Donc elle s'appelait Kim Hak-soon, et donc c'est la première à avoir engagé une procédure judiciaire contre le Japon. Et donc c'est à partir de son témoignage que les langues ont commencé à se délier. Mais alors qu'on a calculé donc qu'il doit y avoir à peu près 40 000 coréennes qui ont survécu à cette histoire, seules 234 coréennes, donc du sud comme du nord, se sont officiellement déclarées femmes de réconfort. Donc c'est évidemment très peu. Et sur ces 234, aujourd'hui, elles ne sont plus que 73. Donc leur témoignage devient de plus en plus précieux et leur combat de plus en plus urgent pour que justice soit faite avant qu'elles n'aient toutes disparu. Alors ce qui est le plus horrifiant dans cette histoire, c'est le caractère organisé, complètement légalisé de ce système de viol et de torture des femmes qui a été mis en place par le Japon. En effet, les femmes ont été placées dans ce qu'on appelait des bases de réconfort, encore une fois avec des guillemets, spécialement ouvertes pour donc assouvir les besoins des soldats japonais. Et donc c'est à partir des témoignages non seulement des femmes, des militaires, mais aussi des autorités, qu'on a découvert que la plupart de ces bases étaient concentrées en fait en Chine, aux Philippines, en Birmanie et en Malaisie. Et en fait, pour justifier l'ouverture donc de ces maisons closes étatiques, le gouvernement japonais a expliqué à l'époque qu'il voulait éviter les viols massifs. Qui est quand même assez paradoxal. Mais Tokyo a pris à l'époque l'exemple du massacre de Nanjing. Donc c'est une ville en Chine où l'armée japonaise a procédé à des meurtres et des viols en masse. C'était en 1937. Et donc Tokyo a pris cet exemple pour justifier l'ouverture de ce genre d'endroit destiné aux soldats et censé réglementer donc leur activité sexuelle, contrôler leurs pulsions et du coup éviter les viols massifs. Bon, c'est paradoxal, mais voilà, chaque soldat recevait officiellement de la part de l'armée une pochette pour l'hygiène avec un préservatif et du spermicide. Voilà, donc c'était complètement organisé. Alors la plupart du temps, ces femmes étaient peu éduquées. Et ce qui se passait, c'est qu'on leur promettait du travail, par exemple un poste d'infirmière, ou la possibilité de faire des études. Donc elles faisaient leur valise avec espoir, et puis elles étaient envoyées à l'étranger le plus souvent, et puis c'est là seulement qu'elles découvraient la vérité, enfin ce qui les attendait, ou parfois les soldats venaient carrément les chercher chez elles, donc ils les emmenaient de force, sans cette promesse d'un avenir. Les témoignages rapportent notamment donc que les filles étaient toutes envoyées chez le médecin, donc le jour de leur arrivée dans la maison close, et donc qui vérifiait si elles étaient vierges ou pas, et si elles l'étaient, ben, le médecin était généralement la première personne à les violer. Ensuite, elles recevaient dans leur chambre minuscule la visite de dizaines et dizaines d'hommes par jour. Dès le début, on leur donnait des noms japonais et on les forçait à parler japonais. Du coup, à leur retour, entre ça et puis évidemment le traumatisme, elles ne parlaient plus qu'un coréen très approximatif apparemment. Elles ont dû réapprendre leur langue avec les années. D'ailleurs, après la guerre, bah, beaucoup sont restées dans le pays où elles ont été envoyées, hein, parce que tout simplement, elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas les moyens de retourner en Corée. Et parmi les halmoni, les grand-mères que j'ai rencontrées dimanche dans cette House of Sharing, celle avec qui j'ai passé le plus de temps, elle s'appelle Pae Chun-hee. Et elle est née en 1923 à Songju, donc c'est dans la province de Gyeongsang du Nord. Et donc elle, c'est à 19 ans qu'elle a été emmenée en Chine. Et après la guerre, elle est restée quelques années en Chine avant de se rendre au Japon, où elle a passé 30 ans de sa vie. Voilà, donc elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est revenue en Corée seulement en 1981. Le gouvernement japonais refuse de reconnaître sa responsabilité dans l'affaire. Donc un exemple à ça, c'est que en 1995, Tokyo a créé le Asia Peace National Fund for Women. Donc un fonds privé qui fonctionne avec des donations privées. Donc évidemment, le fait que ce soit ce genre de donation privée et non étatique, ça n'a pas satisfait toutes ces femmes de réconfort qui veulent, elles, une indemnisation officielle par l'État. C'est beaucoup plus symbolique que financier, leur revendication. Donc cela fait 19 ans qu'elles manifestent tous les mercredis. Il n'y a qu'une seule fois, après le tremblement de terre de Kobe en 1995 au Japon, que la manifestation a été annulée. Et alors le 16 mars dernier, donc juste après le séisme au Japon, exceptionnellement, elles ont laissé de côté leurs revendications et elles ont fait le silence devant l'ambassade du Japon. Elles se sont donc recueillies pour les victimes du séisme. Donc c'est quand même, je trouve, un geste symboliquement très fort et puis très sage de leur part.
Alors au sujet des femmes de réconfort, je ne saurais que recommander la lecture d'un livre qui s'appelle Les Orchidées Rouges de Shanghai, qui a été écrit par Juliette Morillo et qui raconte justement l'aventure d'une de ces femmes de réconfort.
D'accord.
Et bon, j'ai pleuré en lisant ce bouquin.
Ouais,
donc pendant que tu nous présentais ce que tu as vécu avec ces harmonies, et je me suis un peu plongée dans cette histoire douloureuse, horrible.
Ouais.
Et c'est pas le bon moment pour nous d'aborder ce sujet, mais l'histoire c'est l'histoire, le fait est le fait, alors que bon, le gouvernement japonais encore souffre des dégâts causés par les tsunamis, le tremblement de terre.
C'est justement ça qui est intéressant, c'est leur peut-être leur réaction à ça et le fait qu'elles savent très bien faire la différence entre ce qui s'est passé, enfin les responsables dans le passé et la population qui souffre en ce moment de cette terrible catastrophe naturelle. Et ça, je trouve ça très sage.
Merci Eva et à la semaine prochaine. Pour ta dernière chronique.
Oui, hélas.
Je pleurerai encore.
Moi aussi.
Au revoir.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet http://world.kbs.co.kr/french.